Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain avec Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Christine Doucet-Sédène. Bonjour Madame Sédène.
Bonjour à vous.
Et donc je rappelle que vous êtes maître de conférence émérite.
Absolument.
Puisque vous avez enseigné l'histoire à l'université Jean Jaurès et vous continuez des activités de recherche et de publication. Et on vous accueille aujourd'hui pour évoquer un personnage féminin du XVIIIe siècle toulousain, la présidente Dubourg.
Absolument. Une présidente, alors vous allez me demander peut-être pourquoi, qu'est-ce qu'elle préside? Eh bien, elle ne préside rien du tout. Elle est en fait l'épouse d'un président, un président au Parlement de Toulouse. Je rappelle pour tout le monde que le Parlement de Toulouse était une cour de justice qui était divisée en plusieurs chambres et il y avait des conseillers dans le Parlement et des présidents de chambres. Et donc, on appelait les épouses, pour les flatter certainement, on les taxait de présidente, dans le cas donc, de l'épouse d'un président, comme l'était notre Madame Dubourg.
Donc, une famille patricienne.
Absolument. Absolument. Ce sont deux familles aristocratiques. La sienne, elle s'appelle Élisabeth d'Aliès de Mondonville. Elle appartient à une bonne famille noble. Et elle a épousé Valentin Dubourg, qui appartient aussi à une famille de l'aristocratie parlementaire. Ils sont d'ailleurs alliés à d'autres familles qui appartiennent au même milieu de l'aristocratie toulousaine.
Vous nous rappelez ces dates, naissance et mort ?
Alors, elle est née au début des années 1720. En 1721 et elle décède pendant la Révolution en 1794, au moment de la Terreur.
Donc mariée à quel âge et donc elle va faire couple avec ce magistrat.
Alors,
et qu'est-ce qui va la distinguer? Voilà un peu ce qui nous occupe aujourd'hui.
Alors elle s'est mariée alors qu'elle avait une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, enfin là, rien d'original. C'est un mariage bien sûr de raison, hein, un mariage arrangé mais qui n'empêche pas une forte affection entre des époux qui apparemment s'entendaient très bien. Et c'est une famille très nombreuse parce qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants. La légende dit qu'ils en auraient eu 20, mais enfin, c'est peut-être un peu exagéré. Et puis, bien sûr, comme souvent à cette époque, beaucoup sont morts assez jeunes, en bas âge, ou parfois lorsqu'ils étaient adolescents ou jeunes adultes. La famille a eu finalement 6 enfants hein, qui ont survécu à leurs parents, 4 garçons et 2 filles qui ont eu des destinées assez classiques pour ce milieu. Le fils aîné qui reprend les fonctions de magistrat, il deviendra conseiller au Parlement de Toulouse comme son père. Un cadet qui va entrer dans le clergé, il deviendra chanoine. 2 autres qui entrent dans l'armée, l'un dans l'armée de terre, l'autre dans la marine. Quant aux filles, elles épousent des hommes de la noblesse également. L'une partira d'ailleurs dans les années 80 dans les îles parce que son mari fait carrière dans l'administration coloniale. Les colonies françaises à cette époque-là sont en pleine expansion et ils partent notamment à un moment donné à Saint-Domingue. L'intérêt pour nous de cette... fait que cette famille est nombreuse et parfois éclatée, c'est que pour continuer à entretenir les liens entre les membres, eh bien, on s'écrit. Et notamment, c'est la mère, la présidente du bourg, qui écrit à ses enfants ou qui reçoit des lettres d'eux. Et on a conservé donc ainsi de riches archives qui permettent de cerner les relations entre les enfants et la mère, et de connaître aussi assez intimement ce qu'elle pouvait penser.
Donc, c'est une femme qui est cultivée, qui est éduquée, qui est cultivée. Et on sent dans votre propos, au travers de ces échanges épistolaires, qu'elle va apporter peut-être autre chose que la douceur maternelle, les petits... voilà, les interrogations sur le quotidien, la santé, etc.
Alors, tout à fait. Alors, les interrogations sur la santé, sur les aspects pratiques de la vie, les conseils également moraux d'éducation sont aussi très présents. Hein. C'est aussi une mère qui prend très à cœur son rôle maternel. à une époque où on commence à avoir, c'est relativement récent, à ce moment-là, on est au milieu, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une valorisation du rôle maternel et de la fonction maternelle. Et là aussi, elle est assez représentative de son temps pour les femmes de ce milieu-là. Mais effectivement, dans ses correspondances avec ses enfants, notamment avec ses fils, et puis avec son amie, la marquise de Livry, qui résidait en région parisienne et à la cour, elle échange sur d'autres sujets, l'actualité politique. À cette époque, il y a notamment de fortes tensions entre le pouvoir central, royal et les parlements à Paris et en province. Également l'actualité culturelle, elle suit l'actualité théâtrale, l'actualité littéraire. On sait ce qu'elle lit, en partie parce qu'elle en parle, ou elle commande des livres à travers son amie la marquise de Livry. Et on connaît aussi son grand intérêt pour les questions, on va dire, scientifiques et médicales, qui sont aussi un reflet de ce qui intéresse la société française. Quand je dis la société française, la société mondaine française, qui appartient à ce cercle des Lumières dont elle fait pleinement partie.
Est-ce une femme pieuse ou elle commence à prendre quelques libertés par rapport à la religion ?
Alors, c'est à la fois une femme très croyante, en même temps qui a quand même une certaine prise de distance. En particulier, elle est très hostile aux jésuites. Elle écrit des choses très, très dures. Il y a une forte hostilité dans de nombreux parlements contre les jésuites. Mais en revanche, elle est croyante, mais elle prend quand même de la distance par rapport aux croyances classiques au sein de l'Église. Et en revanche, elle va adhérer pleinement avec certains membres de sa famille, un de ses gendres, certains de ses fils, à un courant mystique qu'on appelle l'illuminisme, qui relève de la franc-maçonnerie, qui à ce moment-là est en plein essor. Mais il y a un courant rationaliste, on va dire, de la maçonnerie. Il y a aussi un courant mystique, ésotérique. Et elle y est pleinement impliquée, ce qui est assez rare pour une femme. Et on sait que la famille Dubourg, par exemple, entretient des liens assez serrés avec un personnage qu'on appelle le philosophe inconnu, Claude de Saint-Martin. Voilà. Et elle-même participe tout à fait à cette forme de mysticisme, hein. Qui l'anime, tout ça dans le plus grand secret. Hein. C'est par les correspondances qu'on a découvert ça.
Donc, elle ne se limite pas aux échanges intellectuels, elle s'engage.
Absolument, elle s'engage. Et elle s'engage aussi en ce qui concerne les problèmes médicaux, la santé. Elle fait inoculer ses enfants dans les années 1760 contre la variole, ce qui était assez rare à cette époque.
Oui. Hein. Et risqué.
Voilà, elle fait partie des premiers à Toulouse. Et ensuite, un peu plus tard, dans les années 1780, elle va se passionner pour les idées du médecin Mesmer et de ses théories sur le magnétisme animal. Elle-même pratique le magnétisme animal, elle est censée guérir des gens. Mesmer, quand il vient à Toulouse, réside d'ailleurs dans la famille Dubourg. Et elle et certains de ses fils sont très impliqués dans ces actions. Ils soignent donc soit par le mesmérisme, soit par le somnambulisme magnétique de la même façon.
Courte parenthèse, elle logeait où à Toulouse ?
Alors, la famille a deux lieux comme toutes les familles aristocratiques. L'hiver, ils logent plutôt place Sainte-Scarme dans un hôtel qui existe toujours. Et l'été, ils sont dans un château qui se trouve à quelques kilomètres, le château de Rochemontès, qui est à Seille, sur les bords de la Garonne, où ils organisent d'ailleurs toutes sortes d'activités. Ils reçoivent aussi des amis, ils ont une sociabilité assez développée.
Voilà, et un mode de vie typiquement des familles patriciennes, où on a son hôtel en centre-ville, oui. Et puis on a à la campagne.
Oui, c'est ça.
On a du bien et généralement de très jolies choses, de très jolis châteaux ou des petites maisons.
Ils ont une orangerie, 18e, par exemple.
Oui,
orangerie
très beau Roche-Montès, oui.
Qui sert de lieu de concert.
Voilà. Absolument, bien, puisque la famille possède toujours à la fois l'hôtel et le château.
La famille continue.
Oui.
D'accord, elle a des descendants. Donc. Et je reviens 20 secondes sur ses lectures. Que sait-on de ses lectures ? Est-ce qu'elle lisait les grands auteurs du siècle ?
Oui, absolument. Alors, évidemment, on ne connaît pas tout. On sait ce qu'elle en dit dans ses échanges avec ses fils ou la marquise de Livry. Donc, on sait qu'elle lit à la fois des classiques, peut-être pour garder le lien avec un de ses fils qui faisait ses études à Paris. Elle lit Cicéron, Sénèque, Platon... et des moralistes, mais elle lit aussi les auteurs de son temps, elle lit Voltaire, elle lit Marmontel, elle lit Helvétius, elle lit Locke, enfin, c'est pas tout à fait son temps, mais enfin, qui l'influence. Elle lit Madame le Prince de Beaumont, et puis elle est très fan, on dirait aujourd'hui, de Rousseau, qui avait eu un succès énorme, notamment dans, chez les femmes de l'aristocratie. Et elle aurait essayé d'élever un peu le petit dernier qui s'appelait Bruno, un peu à la mode rousseauiste, semble-t-il. On ne sait pas exactement en quoi ça consistait, peut-être à ne pas l'emmailloter comme on le faisait, peut-être même de l'allaiter elle-même.
Donc on la sent très, très, très curieuse.
Oui, absolument.
Une femme intelligente et très à l'affût de la nouveauté et de ce qu'elle peut retirer de positif dans ce qui est nouveau.
Absolument, sauf dans les nouveautés politiques lorsque va arriver la Révolution française,
oui.
Là, par contre, la famille va pencher carrément du côté de la contre-révolution.
Elle meurt de vieillesse parce qu'elle meurt pendant la terreur.
Oui, elle meurt de vieillesse, mais son fils aîné a été guillotiné en 1794, comme d'autres parlementaires.
Est-ce qu'il y a une lecture dans laquelle on a recommandé pour trouver... Pour...
Alors, je signale qu'il y a eu une édition critique d'une partie de la correspondance de la marquise de Livry. Donc, ce sont les lettres qu'elle envoie à la présidente Dubourg, qui a été éditée en 2023 chez les Classiques Garnier par Isabelle Avelange, qui est une spécialiste plutôt de l'histoire du mesmérisme.
Merci beaucoup. On mettra la référence du livre sur le site de la radio.
Merci beaucoup. Merci à vous.